Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Jacques-Yves Molima, Aouta.
Augustin Matata Pogno devant la barre ce lundi. L'ancien Premier ministre et ses co-accusés sont poursuivis pour détournement des deniers publics. C'est dans l'affaire Parc agro-industriel de Bukangalonzo. D'après un rapport de l'IGF, 205 millions de dollars américains se seraient volatilisés sur les 285 débloqués. Examen du budget exercice 2022. Le délai de 40 jours d'après la loi est dépassé pour son examen à l'Assemblée nationale. Pourtant, le gouvernement l'avait déposé à temps. Conséquence d'après la loi, ce projet devrait être envoyé au Sénat à l'État pour une seconde lecture dans un délai de 20 jours. Enfin, nous recevons dans cette édition du journal Jean-Pierre Kalamba, rapporteur du bureau sortant de la CENI. Il nous parlera de certains préalables pour l'organisation des élections de 2023. Voilà tout pour le sommaire. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et merci de nous recevoir chez vous pour cette édition du journal. Ouverture du procès Matata Pogno et consorts, l'ancien Premier ministre, le sénateur Augustin Matata Pogno, accompagné de Patrice Kitebi, ancien directeur général du FPI, et Christo Globler, un Sud-Africain, vont comparaître devant la Cour constitutionnelle ce lundi 25 octobre. Ils sont poursuivis par le procureur général près cette cour pour détournement présumé des deniers publics fonds destinés au méga-projet du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Rappelons que, dans un rapport publié le 18 novembre 2020, l'IGF avait affirmé que le trésor public avait débloqué 285 millions de dollars américains pour le futur parc agro-industriel de Bukangalonzo. Sur ce montant, 205 auraient été détournés et l'IGF avait présenté Augustin Matata Pogno comme auteur intellectuel de la débâcle de ce projet lancé en 2014. Qu'est-ce qui va se passer à cette première audience publique, Jeff Ngoyi?
Tous les trois comparaissent en étant libres. À ce début d'audience, la première des choses sera d'identifier les prévenus. Après cette étape, la Cour demandera au ministère public de présenter l'accusation. Puis la Cour passera à la vérification des faits. Ce sera le début de l'instruction. Le ministère public pourrait aussi solliciter des juges l'arrestation des prévenus pour telle ou telle autre raison. Il se pourrait aussi que la partie prévenue Matata soulève une exception d'irrégularité. Selon le conseil du sénateur, ils n'ont pas été notifiés de cette audience qu'ils ont apprise par la voix des ondes. Cette comparution augure une première jurisprudence, un nouveau droit, car on n'a jamais assisté à une telle affaire dont une haute personnalité comparaît sans que son immunité ne soit levée. À la rentrée judiciaire de la Cour constitutionnelle le 16 octobre dernier, le président de cette juridiction a annoncé qu'en 6 ans de son existence, sa juridiction va exercer une de ses missions consistant à juger pour la première fois un ancien Premier ministre.
Le projet du parc agro-industriel de Bukangalonzo s'est avéré, selon la mission de la Banque mondiale en RDC, l'un des plus ambitieux initiés par le gouvernement et qui touche directement sur le bien de la population. Initié en 2014 comme projet pilote des 22 parcs agro-industriels que devrait compter ce pays, le parc agro-industriel de Bukangalonzo avait pour mission de produire des maïs, du haricot, des légumes frais ainsi que de la viande afin de répondre aux besoins alimentaires. Ces projets aujourd'hui en abandon devraient permettre à la RDC de réduire sensiblement les impacts néfastes de son économie extravertie qui lui fait dépenser près de 2 milliards de dollars américains chaque année dans les importations des vivres, Pascal Masirika.
Lancé avec pompe le 15 juillet 2014 par l'ancien président Joseph Kabila, le projet du parc agro-industriel de Bukangalonzo a englouti, selon l'inspecteur général des finances, plus de 200 millions de dollars américains dans des détournements de fonds sans atteindre les objectifs escomptés. Ce projet qui exigeait 500 millions de dollars américains pour sa matérialisation s'est vu couper le financement du gouvernement en 2017 alors qu'il produisait déjà de la farine de maïs, entraînant du coup la baisse du prix sur le marché, s'est indigné le gestionnaire sud-africain Africom. En visite à Bukangalonzo le 20 août 2020, l'ancien Premier ministre était peiné de pareil gaspillage de ressources publiques. Des épandeurs qui n'ont jamais volé, cloués au sol, des tracteurs neufs jamais utilisés et dont les moteurs ont été retirés et montés sur des baleinières privées, des tonnes d'engrais chimiques abandonnées, tel était le constat fait par Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Dans un pays où 3 millions d'enfants souffrent de la malnutrition en 2021, selon l'UNICEF, les organisations de la société civile disent ne pas comprendre pourquoi le gouvernement avait décidé de couper brusquement le financement à ce projet et continuer à dépenser plus d'un milliard de dollars américains dans les importations des vivres. Et pour tirer tout cela au clair, le collectif des 33 ONGD exige la comparution de tous les acteurs impliqués dans la gestion de Bukangalonzo au moment de l'arrêt du projet.
L'Assemblée nationale puise ce lundi ses 40 jours lui accordés par l'alinéa 4 de l'article 83 de la loi relative aux finances publiques, la LOFIP, pour examiner et adopter le budget 2022. La culture de l'état de droit lui exige de transmettre le projet du budget 2022 dans l'état pour qu'il soit examiné dans les 20 jours au Sénat. En effet, 40 jours depuis l'ouverture de cette session essentiellement budgétaire, l'examen des matières principales n'a toujours pas débuté quand bien même le gouvernement a déposé le projet du budget 2020 depuis le 15 septembre dernier, donc à temps. À ce jour, il est déjà impossible pour le Parlement d'examiner minutieusement le budget 2022 conformément à l'article 87 de la loi relative aux finances publiques qui exige l'examen de la loi portant reddition des comptes de l'exercice 2020 comme préalable à l'examen du budget 2022. Michel Kifindang.
C'est depuis le 15 septembre dernier que le gouvernement Samalou Kondé a déposé au bureau de l'Assemblée nationale le projet de loi de finances de l'année 2022, conformément à l'article 83 de la loi de 2011 relative aux finances publiques. Mais seulement, l'Assemblée nationale n'a pas pu maintenir cet élan de respect des textes dignes d'un état de droit pour un examen rigoureux du budget. En effet, l'alinéa 3 de l'article 83 de la LOFIP stipule que, dans tous les cas, l'Assemblée nationale dispose de 40 jours à compter de la date du dépôt pour adopter le projet de loi des finances. Ce délai de 40 jours vient d'expirer ce lundi, alors que l'Assemblée nationale n'a même pas encore débuté l'examen du projet de budget 2022. Pire, même le projet de loi portant reddition des comptes de l'exercice 2020 n'est pas encore examiné conformément à l'article 87 de la LOFIP, qui en fait un préalable pour l'examen du budget. S'il faut appliquer de strictes rigueurs l'alinéa 4 de l'article 83 de la LOFIP, l'Assemblée nationale ne pourra plus examiner le budget 2022. Elle devra, dans le respect de cette disposition légale, transmettre ce projet du budget au Sénat, qui sera appelé à l'adopter dans les 20 jours.
Autre nouvelle, quelles sont les questions majeures à régler pour s'assurer de la bonne préparation de l'organisation des élections de 2023? L'ancien rapporteur de la CENI, Jean-Pierre Kalamba, de l'équipe sortante de la CENI, donne son idée au micro de Richard Junior Kamunga. Suivez.
Bon, nous sommes d'abord dans un pays où tout le monde parle de réforme. Il y a déjà la loi organique qui est là. Peut-être qu'il y aura la nécessité de la loi électorale. Étant donné que quand vous faites de Lumumbaville se trouver dans un territoire, une ville, ça devient une circonscription électorale. Il faudra s'en occuper. Je ne parle beaucoup plus de Lumumba, pas parce que je suis du Kassai. Il y a Ouvireville, il y en a autant. Ça change la configuration. Ça va nécessiter qu'on actionne parce que la répartition aussi des sièges va en dépendre. Et qu'on veut pousser encore, même s'il se demande est-ce que le président, des tours ou tout ça, entre dans ce que j'appellerais, moi, les réformes telles que prônées par les G13 ou les groupes de ce que et Mampouya, et ce que les gens, les acteurs concernés voudraient que d'ici l'organisation des élections de 2023, on puisse prévoir. Ça, c'est une contrainte financière à respecter à date, pas de tergiversation. On a dit pour les droits, on donne les 27. Dès qu'on met tout ça, l'accompagnement de la communauté internationale et l'implication de tous, il faut la volonté.
Jean-Pierre Kalamba, ancien rapporteur de la CENI, est notre invité dans cette édition du journal. Puisque nous parlons des élections, les Nations Unies sont disponibles pour apporter leur appui aux élections de 2023 si le gouvernement congolais en fait la demande. L'annonce a été faite ce dimanche 24 octobre à partir de Beni au Nord-Kivu par le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix au terme de sa visite officielle de 5 jours en République démocratique du Congo. Selon Jean-Pierre Lacroix, l'objectif de l'ONU est d'aider un processus électoral transparent qui doit permettre au peuple de s'exprimer librement en évitant les tensions et les fractures. On l'écoute au micro de Martial Papimukeba.
Je note que le président de la République a récemment exprimé l'intention d'avoir un engagement de la communauté internationale s'agissant de l'observation du processus. Alors quelles seront les demandes à l'égard des Nations Unies? Je crois qu'il est encore trop tôt pour le dire, mais nous avons indiqué aux autorités de l'État qu'il y avait à la fois cette disponibilité du côté des Nations Unies, mais que nous ne nous engagerions que dans la mesure où il y aurait des demandes.
Il y aura des exigences des Nations Unies afin d'apporter tout appui.
Il y a un objectif que je vous ai indiqué. Notre objectif, c'est d'aider à un processus qui soit transparent, consensuelle, qui soit organisée de telle sorte que les tensions inévitables lors d'un processus électoral soient, je dirais, contrôlées, qu'elles ne débouchent pas sur des fractures, et qu'à la fin des fins, il y ait un processus, une élection, une consultation qui permette à la population congolaise de s'exprimer librement et que son choix soit reflété à l'issue de ce scrutin. Et...
Vous venez de les suivre, le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, qui a clôturé à partir de Béni sa visite en RDC. Accompagné d'une forte délégation, dont la représentante spéciale du secrétaire général en RDC, Madame Bitou Keïta, le patron des opérations de maintien de la paix a fait le tour dans l'Est, notamment à Kalemi, Goma, Butembo et Béni, pour s'enquérir de l'évolution de la situation sécuritaire, mais aussi du plan de retrait progressif de la MONUSCO en RDC. Sifa Maguru pour les détails.
Jean-Pierre Lacroix a quitté la ville de Beni hier dimanche dans la matinée pour Bujumbura au Burundi en passant par Goma. Arrivé le 19 octobre en RDC, il s'est entretenu avec les autorités du pays, mais aussi les leaders de l'opposition politique sur l'insécurité dans l'Est et sur le processus électoral. Au cours de sa tournée dans l'Est, à Kalemi, il a discuté sur les questions des retraits de la MONUSCO. À Goma, Butembo et Beni, le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix a échangé avec différentes autorités politico-militaires et religieuses, notamment le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima, ainsi que le responsable militaire des FARDC et de la MONUSCO. La situation sécuritaire, marquée par les violences et massacres des civils dans la région de Beni et l'insécurité en général dans l'est de la RDC, était au centre des échanges à chaque étape de sa visite. C'est par exemple à Butembo où il a rencontré l'évêque du diocèse de Butembo-Beni, Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Puisque nous parlons de la situation sécuritaire dans la partie est du pays, les députés nationaux Olive Moudekereza Namegabe saluent le renforcement de la sécurité par le gouvernement provincial du Sud Kivu sur les routes nationales numéro 2 et 5 aux alentours des villes de Bukavu et d'Uvira, ce qui a conduit, d'après lui, à une accalmie de plusieurs contrées. Dans un point de presse ce samedi à Kinshasa, l'élu de Walungu a demandé au gouvernement de la République de mettre à la disposition des patrouilleurs des moyens matériels conséquents, notamment les vivres et les moyens de communication pour arrêter définitivement les attaques des paisibles citoyens sur ces routes. Pour les députés nationaux Olive Moudekereza, cette amélioration de la sécurité permettra de relancer les travaux agricoles qui vont impacter positivement sur l'économie. Ces propos ont été recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Pendant ces trois jours que j'ai fait à Bukavu, j'ai essayé de faire un tour sur nos deux routes d'approvisionnement, la RN5 vers Uvira et la RN2 vers Walungu, Mwenga, Shabunda. Je suis parmi les plus heureux parce que la lettre que j'avais adressée au vice-premier ministre de l'Intérieur a des échos favorables. Aujourd'hui, sur la route RN2 de Bukavu jusqu'à Walungu, il y a ce que j'avais demandé dans ma lettre, ce qu'on dit checkpoint et les patrouilles, et il y a la sécurité. C'est la saison des pluies. Les voyants, soldats et la police se mouillent. Pendant la pluie, il faut avoir l'abri. Je vais encore demander au ministre de la Défense, au ministre de l'Intérieur, pour dire, cherchons à faire des tentes à chaque checkpoint, à chaque penchon, pour l'abri de ces voyants militaires et policiers qui nous aident jour et nuit. Mais nous disons, et nous l'avons encore écrit au gouvernement, de tout faire, équiper ces gens, donner des motos là. Vous pouvez communiquer des Chidao, des Chidodobo, des Luakabiri, s'il y a un bandit que vous avez suspecté. Avec cette communication, avec le service de sécurité, on peut l'attraper facilement. Cela va impacter positivement sur l'économie. Je peux vous dire, l'impact sera positif.
Ce journal se poursuit, mesdames et messieurs. Au Kassai oriental, la ville de Mbujimayi est en grande partie approvisionnée en charbon de bois et autres produits agricoles à travers les pédaleurs ou les conducteurs de vélos. Ces derniers proviennent de localités telles que Mabaya, Chichiaku, Mumpompa, Ndomba et ailleurs. Esther Dalafina revient ici sur le calvaire de ces pédaleurs. Suivez.
Il faut sortir d'un Mbujimayi pour se rendre compte de l'approvisionnement de la ville en charbon de bois à travers les pédaleurs. Près de 200 pédaleurs proviennent des territoires de Lupatapata, Miabi et Kabeyakamwanga chaque jour, transportant des sacs de charbon de bois pour la vente en Mbujimayi. Moïse Kanda provient de Chinchanku dans les territoires de Kabeyakamwanga.
Je pars en Mbujimayi à Djoka avec mes trois sacs de charbon. de bois pour chercher qu'on a trouvé le bol de maïs.
Albert Kolela provient de Kabotou dans le secteur de Moukamba. Il dit avoir passé 4 jours en route avant d'atteindre Mbujimaï.
J'ai déjà fait 4 jours en route. Ceux qui me poussent sont des propriétaires de charbon de bois.
C'est depuis quelques années que les camions de charbon de bois n'arrivent plus dans les grands marchés de Mbujimaï. C'est ce qu'explique Cécile Bijingabou. Le charbon de bois arrive que par vélo et c'est qu'on transporte sur les têtes en provenance des villages. Les camions transportent que 3 ou 4 sacs seulement. Les camions n'amènent plus le charbon de bois ici. D'après certaines indiscrétions, les propriétaires des véhicules ont abandonné les transports de charbon de bois suite à l'état des routes et d'autres ne peuvent plus faire face au prix du litre de carburant. Esther Ndalafina, Mbujimaï, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Soudan, des hommes armés non identifiés ont arrêté plusieurs dirigeants soudanais tôt ce lundi matin, a indiqué à l'AFP une source gouvernementale, après des semaines de tensions entre les autorités de transition civile et militaire. L'Internet a été coupé à travers les pays tandis que des manifestants se rassemblaient dans les rues de Khartoum pour protester contre les arrestations.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal est Jean-Pierre Kalamba, ancien rapporteur de l'équipe sortante de la CENI. Il s'entretient ici avec Richard Junior Kamoura. Suivez.
Jean-Pierre Kalamba, bonjour.
Bonjour Richard.
Quelles sont les priorités pour la nouvelle équipe à court et moyen terme pour organiser les élections de 2023?
Les priorités, on va nécessairement les remettre dans les documents de remise et reprise, mais je vais les ramasser à l'emploi. Il y a la nécessité d'actualiser la cartographie, c'est-à-dire nous avons la République démocratique et comme c'est constitution du président, 26 provinces pour les sénateurs, 145 territoires et 32 ou 33 villes pour les députés nationaux. Nous avons les éléments, les entités politico-administratives sur lesquelles on calque nos 11 districts. Il faut qu'on actualise ça parce que vous avez suivi, on a créé par exemple la nouvelle ville de Lumumbaville, de Uvira, qui doivent actualiser la cartographie comme la priorité. Parce que cette cartographie leur permet de fixer les idées sur les entités politico-administratives qui vont permettre, deuxième activité, l'enrôlement des électeurs. Et dès qu'on a terminé l'enrôlement des électeurs après nettoyage des doublons, comme c'est le cas chez nous, la troisième activité, ça sera la répartition des sièges pour fixer les idées à ceux qui vont concourir, doivent connaître. Et arrivent les suivants et les résultats se contentent. Les stations de serment là où c'est depuis considéré sommairement, là, les grandes affaires prioritaires à réaliser par la paix. Sans oublier que nous avons déjà ouvert la paix avec l'élection du gouverneur, du vice-gouverneur dans 14 provinces, compris Turi, Kiyan, etc.
Quel est l'état actuel des ressources de la CENI? Je vais parler de la logistique, machines à voter, véhicules, ressources humaines.
La dernière situation est celle que nous avions présentée. Les rapports généraux couvrent toute la période. Je n'ai pas ça en tête, mais tout le monde savait qu'on avait par exemple acheté 107 000 machines à voter. Il y a eu l'incendie de Kinshasa, que vous n'oubliez pas, presque la paix des élections. 14-15, il y aura les kits de l'enrôlement qui avaient servi autrefois, mais on est en train de voler parce que nous n'avons pas de dépôt un peu partout, c'est gardé dans des maisons des gens qui ne sont pas de fois payés. L'état des lieux complet et propre, il ne faut pas s'aventurer à donner trop de chiffres à la volée comme ça. On trouve dans le rapport général et dans le rapport 2018-2019 sera mis à la disposition de nos futurs rapports.
Est-ce que vous aviez déjà une prévision budgétaire pour les élections de 2023?
Et ça, c'est automatique. Nous faisons la planification, les budgets de l'État qui a été déposé au gouvernement. Vous verrez qu'il y a les prévisions de la CENI pour les élections. Vous avez aussi entendu, en perspective de la mutualisation entre les ministères du plan et l'Institut des statistiques, compris, je crois, le bureau central, entre les ministères de l'Intérieur avec l'ONIP, entre la CENI, qui chacun faisait ses statistiques selon les prescriptions de la loi. Lors de la mutualisation, on vous a dit qu'on était vers 900 millions entre les deux et que ça pouvait être réduit à 600 millions. Il y a peut-être aussi l'avantage que peut-être les autorités pour récupérer les retards ici vont se contenter de faire des commandes là où nous avions demandé les machines à voter. On en veut encore, je ne sais pas depuis qu'on avait dit que c'était machine à voler. Après, tout le monde commence à apprécier, mais sans parler à haute voix.
Est-ce que par le temps qui reste, vous êtes sûr que les élections auront lieu à la date prévue?
Bon, les élections, quand nous avions été à la primature avec les institutions que je venais de citer, nous avions estimé que dans 659 jours, et si vous faites les calculs d'aujourd'hui, les élections, l'article 70 de la Constitution dit de convoquer l'électorat 90 jours. Et vous prenez le 24 janvier, vous reculez, vous verrez que les élections doivent être convoquées vers août, septembre, et que ça doit avoir lieu aux alentours de, s'ils sont prêts, en novembre ou décembre, ou même à la même date que nous, pour que celui qui doit prêter serment prête le 24 janvier.
À quand la remise et reprise avec les nouveaux comités?
Regardez la loi organique. La loi organique, c'est comme un géant. D'abord, les composantes qui désignent leurs membres. Après, l'arbitrage de l'Assemblée à travers la commission. Cette fois-ci, la commission. À notre époque, c'était le bureau. Après l'arbitrage, il y a l'entérinement. Il y a déjà eu lieu. Après l'entérinement, il y a l'ordonnance d'investiture. Après l'ordonnance d'investiture, le bureau qui est là fait faire la requête auprès de la Cour constitutionnelle pour prestation de serment. On ne viendra pas sans avoir prêté. Après prestation de serment, le boulevard est ouvert vers la remise et reprise qui est déjà prête. Et après, ils tiennent la première réunion avec le secrétaire exécutif national, qu'on appelle CNT. Ils prennent la marche et la fin.
Jean-Pierre Kalamba, Allah, je vous dis merci.
Merci, Radio.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.